guys, we need to actually build a base. Because unfortunately, the kind of the moment that we're in, where it's kind of just about me, doesn't require to think about what does a mass movement look like? What does a mass organization look like?
Parle à l'émission Café, votre émission préférée d'art et culture du vendredi soir. Donc, on est le 22 mars, il est 18h03 et je suis avec ma co-animatrice Esther. Salut Esther.
Bonjour, bonjour à tous.
Donc, on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette deuxième émission de levée de fonds 2024. Ouais. Très excitant.
Très important pour nous à CKUT. Cet argent-là permet beaucoup de choses. Non seulement à entretenir l'équipement, mais ça permet d'aider à payer l'équipe aussi, à quelques salariés. Nous, on est bénévoles au micro, mais il y a toute une équipe derrière nous. Et la radio indépendante, comme on dit, hein, c'est super important à conserver. Et partout dans le Canada, on a une place vraiment importante puisque il y a des émissions 24 heures sur 24.
Oui.
7 jours sur semaine, des contenus indépendants de toutes les points de vue possibles puisqu'on n'a pas comme une ligne éditoriale, mais plusieurs lignes éditoriales. C'est en multilangue. Quoi dire d'autre?
La liste est longue. Puis on a du bel équipement, on a plein de choses en fait qui nous sont fournies pour faire qu'est-ce qu'on a à faire en tant qu'animateur, animatrice. Puis c'est de l'équipement qui s'use au fil du temps. Puis c'est vraiment, vraiment important si vous aimez écouter la station 90.3 FM de contribuer à votre niveau. Et il y a plusieurs manières que vous pouvez faire un don. Vous pouvez faire un don en ligne à ckut.ca/donate,
donc
D-O-N-A-T-E. Vous pouvez faire un don au téléphone au 514-907-9424. par mail, radio-CKUT au 3647 rue University à Montréal. Et vous pouvez faire des dons par chèque, par Visa, par débit.
Les gens peuvent téléphoner. Oui. Il y a des bénévoles qui attendent votre appel.
Donc, voilà, plein de manières de donner différentes.
Ils sont donnés le numéro de téléphone.
Oui, je l'ai on peut le redire si tu veux.
Oui, parce que j'ai mal entendu, désolée.
Donc, le téléphone, c'est le 514-907-9424. Donc, voilà. Alors, ce soir, on a un gros programme quand même. Ça va être super le fun.
Ouais, ouais.
Et toi, Esther, qu'est-ce que tu nous présentes ce soir?
Bien, j'ai donné la parole à notre collaborateur de grande date, Stéphane Christophe. Elle nous a préparé pour nous une interview avec Jean-Philippe Marquis. C'est un réalisateur de films documentaires. Il nous propose le film Sylvicola. Donc, c'est un film qui a passé à Cinéma Politica et qui sort en salle ce soir. Et puis, bien, c'est un peu une surprise. Ça parle d'un angle sociopolitique, de sujets très importants. Et Stéphane va nous révéler ça tout à l'heure. Donc, ça est vers 6h30, je pense.
Je pense que oui. Donc, super. On a aussi une entrevue que Charlotte a faite avec mon trou de mémoire ici, mais on va découvrir ça plus tard dans l'émission.
C'est du théâtre.
Oui, c'est du théâtre, voilà. Aussi. Et moi, je suis allée voir une pièce avec Charlotte aussi, donc hier soir, une pièce de théâtre qui s'appelle La Grande Mascarade à la Chapelle Scène Contemporaine. Donc, je suis très enthousiaste en fait de vous en parler parce que c'était absolument génial. J'ai pleuré de rire, ce qui m'arrive rarement quand même. Et là, c'était vraiment mérité. Donc, ça part sur la base de la légende des reliques de la mort dans Harry Potter. Je sais pas si Star, ça te dit quelque chose. C'est trois magiciens qui croisent la mort, puis là, la mort leur donne ce qu'ils veulent. Puis il y en a un qui demande pour la cape d'invisibilité, la pierre qui ressuscite les morts ou la baguette magique la plus puissante. Bref, ça commence avec ça, mais c'est interprété par Étienne Loup et Gabriel-Antoine Roy, qui sont deux interprètes extraordinaires. Et ça tourne vraiment dans n'importe quoi, là, ça va dans tous les sens. Mais c'est vraiment, vraiment drôle. Il y a une partie d'improvisation, il y a une partie qui est écrite. Et en fait, l'objet principal qui encercle cette performance, c'est le masque. Ils utilisent un masque qui couvre seulement la moitié du visage, en fait, qui s'arrête en fait, du front au nez, mettons, ou à la lèvre supérieure. Et ça fait extrêmement longtemps qu'ils pratiquent cet art du masque, ça fait 8 ans. Et donc, j'ai eu une conversation avec eux que je vais vous faire écouter, qui est super intéressante. Donc, voilà. Et La Grande Mascarade, ça joue ce soir à 19h, donc c'est peut-être un petit peu dernière minute, mais ça joue aussi demain à 15h, demain 23 mars, le samedi. Donc, je vous encourage énormément à y aller. C'était vraiment, si vous voulez vous détendre, puis penser à autre chose, puis vous laisser emporter dans une performance hors du commun, je vous recommande vraiment ça. Donc, La Grande Mascarade à la Chapelle Contemporaine, puis on écoute mon entrevue avec Gabriel-Antoine Roy et Étienne Loup.
Ben, bravo, premièrement, pour la représentation de... Moi, j'étais là hier soir, dans le fond. Puis, ouais, félicitations. Comment vous l'avez senti, les deux premières représentations, dans le fond, mercredi, puis hier?
C'est sûr, les gars. Ben oui, c'était des super représentations. Je pense... Le public était au rendez-vous, puis le public, je pense, était content d'être là, puis je pense que c'est comme ça a été notre première fois où on ouvrait un peu notre travail sur ce qu'on faisait autour des masques, puis je pense que les gens ont été impressionnés, puis satisfaits, puis je pense emballés par ce qu'on pouvait créer sur scène grâce à ces masques-là.
Ouais, je confirme. Je pense que... Ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Puis je pense que, au vu de comme les réactions du public, là, je pense que tout le monde était pas mal emballé par ce que vous proposiez. Fait que ça, j'avais préparé quelques petites questions. Fait que j'étais là aussi pendant la discussion après la représentation d'hier. Fait que je vais peut-être vous faire vous répéter un peu, mais je trouvais ça vraiment intéressant de comprendre d'où ça vient la performance autour du masque. Vous êtes pratiqué énormément pendant les 8 dernières années. Fait que est-ce que vous voulez me réexpliquer un petit peu d'où ça vient cette démarche-là, puis comment ça procède?
Ouais, fait que dans le fond, nous, on a commencé à l'École nationale, on s'est rencontrés dans la même classe, puis notre premier cours d'interprétation, c'était avec un prof qui s'appelait Nicolas Quentin. On a beaucoup aimé ses cours d'improvisation, fait qu'on a commencé à prendre des stages avec lui. Puis en apprenant un peu plus à le connaître, on a découvert qu'il avait fait du clown, qu'il avait fait du masque. Fait qu'on était curieux de retravailler avec lui, fait que là, on a commencé, on a fait un premier stage de clown, on a vraiment trippé. Puis après ça, il a dit « Ah oui, il y a des masques aussi. » Fait qu'on a fait « Ok, on veut essayer le masque. » Puis là, c'est là que ça nous a ouvert à cet univers-là. Puis c'était cet univers-là combiné avec sa méthode qui met bon l'acteur, l'actrice en état de présence. Puis ça, combiné avec le masque, on a tous les deux tombé en amour avec la discipline. Puis après ça, on a continué à prendre des stages de masque en organisé avec lui, puis lui qui en organise, puis nous qui les prenait. Fait qu'on a fait ça pendant 8 ans, à peu près.
OK. Super. Vous voulez te rajouter quelque chose?
Non, je pense que c'est pas mal clair. C'est comme ça que ça a débuté. C'est vraiment comme ça que ça a débuté. Puis là, je pense que ça fait un an et demi qu'on travaille sur ce spectacle-là. Fait qu'après, ça a été comme un peu... au bout de tout ce travail de, disons, de recherche de présence ou ces choses-là, ben, je pense qu'on avait essayé, on avait envie de tenter de faire un spectacle. Tu sais, c'est quoi se mettre à risque, puis le présenter devant plusieurs personnes, puis qu'est-ce que ça veut dire refaire des représentations, parce que c'est sûr que comment nous on a connu le masque, c'est beaucoup, beaucoup d'improvisation. C'est des fois des canevas qu'on a en tête puis on essaye de faire, mais c'est rare qu'on refait les choses. Alors qu'est-ce que ça signifiait de refaire les choses? Ben là, c'était notre défi dans le spectacle. De oui, les mots sont en mouvement, mais il y a un canevas de base qu'on essaie de suivre. T'sais. Alors à ce moment-là, c'est là que le spectacle prenait tout son sens pour nous. Puis nous amener ailleurs dans notre pratique.
Mm-hmm. Puis qu'est-ce que ça change pour vous, l'énergie sur scène, quand vous improvisez versus quand vous faites quelque chose qui est vraiment écrit, que vous voulez vraiment vous conformer à ce qui a été décidé à l'avance? Est-ce que c'est plus stressant? Est-ce que c'est plus le fun? Comment vous vivez ça, vous?
Oui, c'est clair qu'on le vit de façon différente, non? Ça, c'est sûr. Vas-y, regarde, dis-moi.
Non, toi, vas-y.
J'y vais. Quand j'improvise, mettons, des bouts... quand j'ai des bouts improvisés, généralement, il faut qu'ils soient assez simples. Quand c'est trop compliqué, comme... Je rentre dans une histoire, puis là, le public rit pas au début, nécessairement. Fait que là, moi, je panique, puis là, je sors de l'histoire. Je fais « Non, oublie ça », puis je passe à d'autres choses. Mais comme l'autre soir, le soir de la première, j'avais essayé comme un rap sur le cac, le calque et le cam. Puis ça avait vraiment bien pogné. Là. C'était comme un freestyle de rap que je faisais juste dire calcam, calcacam. C'était vraiment niaiseux, puis ça a super bien marché. Mais je sais pas, c'est comme un momentum. Faut juste que tu y ailles quand t'improvises des trucs. Puis bon, les trucs qui sont déjà prévus, c'est quand même agréable parce que tu sais un peu... Plus tu le fais, plus tu comprends un peu ta dynamique avec le public, puis où est-ce que tu vas avoir ton rire, puis tu sais quel moment t'étires, quel moment t'étires pas, en sachant où est-ce qu'elle est ta fin. Fait que ça, c'est ça qui a de le fun dans le refaire 4 fois, c'est que, OK, j'étire ce bout-là ce soir, là, je l'étire moins lui, parce que là, je les ai perdus à la fin. Fait que c'est comme de créer l'architecture de ça.
Ouais. Ouais. Oui, puis tu sais, ce qu'on sème au début, tu sais, ben, comme tu dis, Étienne, là, c'est ça, c'est que c'est sur le long, tu sais, c'est comme un spectacle sur le long. Fait que des fois, t'es comme, OK, ben, ça c'est prévu, mais je sais que ça va créer ça pour plus tard. Fait que, on dirait que t'es. Ben, tu sais, je fais juste penser au passage du long nez. Tu sais, au début, il passe des petits courts passages, mais à la fin, OK, il finit le show. Fait que, tu sais, c'est comme, ben là, peut-être que je gâche un punch, mais de toute façon. Il reste une soirée. Mais, tu sais, la fin, je suis chaud. Fait tout ce que je place au début, puis que je raccourcis, puis je le sais que c'est comme... J'aurais envie d'improviser plus, mais je me dis, OK, je me contrains pour que la fin, ça punche plus. Alors, c'est... Je pense que le fait de prévoir aussi nous amène, oui, des fois, à nous contraindre un peu. Puis des fois, c'est là qu'on trouve cette la liberté, mais... Ça nous aide aussi à faire en sorte que le show se tient plus, puis qu'on n'est pas juste dans le gag. Des fois, on va vers la poésie ou la philosophie, ou tu sais. Fait que ça nous permet de vraiment ancrer, disons, un spectacle qui va se tenir soir après soir.
Mm-hmm.
Ouais, puis comme c'était ça aussi un des gros apprentissages, c'était comme sortir du contexte de stage, puis essayer de créer un spectacle. Puis on n'avait aucun référent de spectacle de masque. En tout cas, aucun référent, comme dans notre expérience. On avait entendu des histoires, mais pas en voir. Fait que ça a été vraiment une découverte comme naïve de notre part de faire comme, OK, ben là, on va l'écrire, ce bout-là, mais c'est-tu juste d'écrire l'affaire avec le masque? Bon, on va le faire, tu sais. Fait que c'était ça aussi notre approche de, OK, comment on crée un spectacle? Ça a beaucoup été ça, la question.
On a une dynamique aussi, Étienne, je pense qu'il est plus... Même dans ses personnages, il construit des choses, il construit des éléments, il amène une histoire, il a pensé à quoi, puis là, il nous amène dans son histoire, puis c'est ça qu'on aime. Puis je pense que moi, dans ma dynamique, peut-être de créateur, mais en tout cas, dans ma dynamique de masque, souvent, c'est de déconstruire. Fait que... Mais mon personnage, la plupart du temps, ou mes personnages déconstruisent. Fait que c'était souvent ça, c'était Étienne qui construisait des affaires, qui disait « OK, on va prévoir ça, ça, ça », puis moi, il faisait « Non, on coupe ça, on détruit », fait que tu sais, puis au bout de la ligne, ce qui reste, c'est l'empreinte de tous ces passages-là, tu sais, de ces allées et venues, de « OK, on construit, on déconstruit », puis la structure qui reste aujourd'hui, c'est ça, c'est comme c'est ça, un récif de ça.
Ouais, c'est comme une histoire à travers laquelle on passe, mais qu'il y a plein de moments qui on se perd, là, comme on va au dépanneur, on attend au dépanneur 15 minutes, après ça, on passe à la route, là, il y a un paysage, on s'assoit devant un paysage.
C'est vraiment... On va prendre l'histoire, on va repartir.
Ouais, c'est ça. Il y a toujours notre fil conducteur, mais au final, c'est le voyage qui est le fun, là. C'est le temps qu'on passe ensemble.
Mm-hmm. Ouais, c'est super. Puis, j'étais curieuse, pourquoi vous aviez choisi la légende des reliques de la mort d'Harry Potter pour ouvrir le show? Pour le conduire, en fait, tout le long, là.
On avait fait, genre, des tests avec deux histoires. On avait essayé le Saint Graal, puis on avait essayé les reliques de la mort. Puis le Saint Graal, ben en fait, le Saint Graal, ça aurait été super intéressant aussi. Mais quand on l'a fait, le Saint Graal, il y avait tellement d'étapes que c'était comme... Quand on le faisait, on était là, on ne viendra jamais à bout de cette putain d'histoire, mettons. Puis avec comme les reliques, il y avait un côté simple. Il y avait comme, tu sais, les trois frères, lui meurt, lui meurt, lui meurt. Voilà, c'est fini.
Ouais, puis tu sais, qu'il y a une petite morale, qu'il y a une affaire. Tu sais, c'est une histoire qui se raconte assez rapidement. Fait qu'après, ça laisse vraiment le temps au masque de comme aller dans des détails, puis d'en rajouter, puis faire ça gros, puis dévier. Puis je pense que le fait que ça soit simple et clair, ben ça nous permettait de nous flyer ou de, tu sais, de tergiverser.
Mm-hmm.
Ouais, puis il y a quelque chose aussi que je trouvais intéressant dans le fait d'offrir des histoires qui parleraient à une certaine génération. Comme, tu sais, c'est un truc comme quand même dans l'univers d'Harry Potter qui quand même... tu sais, c'est pas comme... On raconte pas les reliques de la mort d'Harry Potter, on raconte un conte à l'intérieur. Fait que j'aimais ça, genre faire un peu un Easter egg, genre, comme, OK, viens voir ça. Si t'as cet âge-là, tu sais un peu de quoi je parle, viens. Je trouvais ça bon pour, comme, attirer le monde, mettons, d'une certaine génération.
Ouais, ouais, ouais. Amener un élément de familiarité un peu pour les familiariser, ouais.
Qu'on fait pas comme, oh, on fait Hamlet, mais avec des masques. Non, non, on fait un conte d'Harry Potter.
Mm-hmm. Ouais, je comprends. Puis là, spoiler alert, mais j'étais vraiment curieuse de pourquoi vous aviez intégré la partie où on voit un peu les coulisses, là vous êtes plus dans vos personnages, vous parlez vraiment, on était quasiment gênés d'assister à ça, là, comme si c'était comme interdit. Je me demandais c'était quoi le but derrière ça de comme couper les personnages, puis vraiment, c'était vraiment un changement d'ambiance soudain, tu sais?
Ben, je pense que c'est venu à un moment où l'équipe de conception était comme, ben, disait que trouvait intéressant notre dynamique entre les deux, entre moi et Étienne. Tu sais, c'est une vieille amitié, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Puis on est allé à l'école ensemble, on a fait 4 ans d'école. Il y a tout ça, puis je pense qu'à un moment donné, dans les improvisations, des fois on enlevait nos masques, puis on se parlait, puis on travaillait ensemble. Puis je pense que les conceptrices, à un moment donné, ont juste dit hey, ça serait le fun de vous voir, mettre ça en scène un peu, ce duo-là ou cette énergie-là, les deux ensemble. Puis Étienne a eu cette idée-là à un moment donné de juste, ben, crime, on ouvre les rideaux, puis il y a une fausse coulisse, tu sais, puis on ouvre avec ça, puis tranquillement est venue l'idée de, c'est ça, de recontinuer avec le masque après, puis de transitionner ça entre les deux.
Ouais. Puis avec, ouais, puis avec comme, tu sais, on se faisait raconter plein d'histoires à propos des acteurs de masque, comme ils jouaient, tu sais, il y a tel personnage, il y a tel personnage, puis là, quand il était allé, il enlevait le masque, puis il faisait. Ah, oh, si je suis tanné, je suis fatigué à soir. Puis, tu sais, c'est comme plaire, mais le masque, oh, je suis le personnage. Fait que, je pense que ce côté-là d'enlever le masque, on aimait ça. Puis, je pense que j'aimais l'idée de, comme, qu'on crée un quatrième mur à un moment donné, comme que, tu sais, on le pète tout le long, puis là, à un moment donné, il est là. Puis, oh, t'assistes à quelque chose dans l'intime, puis qu'on revient. Je pense que ça fait un switch intéressant après, comme, un certain bout de temps qu'on regarde. On est à broil.
Ouais, vraiment. Ouais. C'était le défi du spectacle, c'est de faire OK, ben oui, on improvise, oui, il y a de l'intensité, de la générosité, mais est-ce qu'il peut y avoir des moments où on respire, tu sais, que le public respire, qu'il arrête de nous voir, qu'il arrête, tu sais, comme juste des pauses. Puis je pense que ces pauses-là, maintenant, existent dans le spectacle. Les objets bougent, il y a des chorégraphies d'objets, des choses comme ça. Puis même ce moment-là de loge, c'est la même chose, c'est une autre pause, mais. Je pense que ça a été le défi aussi dans notre construction de faire OK, comment se cacher, comment disparaître une fois de temps en temps dans le spectacle.
Mm-hmm. C'est vrai, vraiment, c'est très juste ça.
Ouais, ben je trouve que c'était vraiment intelligent les moments de surprise un peu dans le spectacle où on pense qu'on a compris comme à quoi s'attendre, plus finalement on est comme surpris de nouveau, puis ça crée comme un momentum à chaque fois qui est vraiment le fun. Fait que, ouais, puis je voulais juste aborder un dernier sujet dans la conversation d'hier. Je pense que c'était Gabrielle Antoine qui disait ça, que toi, tu travaillais vraiment bien dans la contrainte, puis le masque, c'était une contrainte physique aussi, tu sais, que des fois, t'avais mal, puis c'était ça qui stimulait un peu ta créativité, puis même que les mots sortaient bien, comme complètement construits déjà quand t'étais avec le masque, parce que c'était comme si ça devenait, je vais pas me sortir les mots de ta bouche, mais peux-tu développer un peu là-dessus?
Ben, c'est ça, il y a eu une question hier comme quoi, est-ce que le masque est moulé à votre visage, tu sais, comment qu'il est fait, puis c'est ça, je répondais, le masque, en tout cas, j'en ai deux, où il est loin d'être moulé sur mon visage, au contraire, puis mais c'est ça, c'est le masque, il contraint le visage, puis il vient faire des pressions dans le visage, puis des fois, il faut que tu fermes un œil, ou des fois, tu dois lever ta lèvre. Puis cette contrainte-là faciale, pour moi, tu sais, puis je pense que c'est la contrainte pour Étienne est différente, mais pour moi, le fait d'être contraint me place à un endroit à l'intérieur de moi, puis on dirait que c'est plus facile pour moi après de développer un langage du personnage. Je donnais comme exemple hier que j'ai appris l'accent normatif à l'école, l'accent français là, qui est comme plus de base, là, le français neutre. Puis j'avais de la misère à l'école, puis là, le moment que moi je mets un masque, puis j'en ai un masque qui parle en français plus normatif, mais là on dirait que tout se clarifie, tout est plus facile. Mais on dirait que c'est dans cette contrainte-là. Cette contrainte corporelle-là que je trouve vraiment ma liberté puis ma voix là-dedans, puis c'est comme si aussi le... Tu sais, quand on improvise, les chemins sont tout ouverts, là. Tu sais, je pourrais aller dans n'importe quelle direction, mais là, le fait que tellement je suis contraint dans un endroit spécifique, bien, ça fait qu'après, je me sens libre de cheminer dans ce chemin-là.
Oui, je comprends. Puis toi, Étienne,
Je sais
tu
pas si
commences.
c'est aussi clair
Oui.
qu'il y a.
Oui, complètement.
Ouais, c'est super clair.
Puis toi, Étienne, est-ce que
Attends, là,
t'as la même chose avec un peu les contraintes ou comment tu sens que ta créativité est stimulée?
mais je pense que Gab, comme il y en a un en particulier qui faut qu'il ouvre un œil plus que l'autre, comme fait que je pense que ça, c'est quand même le masque avec la grosse contrainte. Mais en fait, le mien, les miens, il faut juste que je mette comme ma lèvre en dessous. Ma lèvre supérieure en dessous du masque, là, faut que vous veniez voir le show pour comprendre, c'est ce que je veux dire au public. Mais faut que je mette mon truc, puis là, après, là, mon accent se place un peu, puis là, je commence à parler de même. Fait que, ouais, c'est la même affaire. C'est le bout de bois sur ta face qui t'indique un peu, puis si tu l'embrasses après, ouais, c'est ça. Mais c'est moins intense que Gabriel, je pense. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on a. Nos approches sont différentes aussi, parce qu'on a suivi le même enseignement, mais nos outils pour arriver à des résultats qui fonctionnent, c'est des chemins intérieurs, hein? C'est notre petite poutine, notre petite sauce, notre saveur à nous, quoi. Puis moi, ça a beaucoup passé à travers, mettons, la voix, l'accent, ça a été super important pour moi. Puis quand j'ai trouvé les accents, après ça, toute la voix s'est placée, après ça, tout le. Puis au final, tu sais, Gabriel, comment il fait? Gabriel, corporellement, ses personnages sont très différents, les deux. Ils bougent très différemment, tandis que les miens, c'est essentiellement la même personne. C'est comme le même corps, mais avec des accents différents. Mais moi, comment j'explique mes deux masques, mettons, c'est comme moi, je suis moitié chinois, moitié québécois, puis il y en a un 100% québécois, puis l'autre est 100% chinois. C'est le même corps, c'est donc je représente tous les métis.
Comme les deux parties de toi.
Exactement. Ouais.
Mais c'est fou, quand moi je t'ai vu, je l'ai vu faire. J'ai vu ces masques-là apparaître les deux fois, là, les premières fois que Étienne les a mis. C'est fascinant, là, la liberté que Étienne a pris quand il a fait ce chinois-là. T'sais. Puis là, il sentait que tout le plaisir qu'il prenait à faire comme OK, ça, c'est mon chinois intérieur, c'est ça.
Ouais, c'est ça, exactement.
Puis là, le moment qu'il a fait son québécois, c'était comme, oh mon Dieu, mais tu sais, tellement quétaine, tellement, là, tu sais, direct dans. C'est tout cet imaginaire-là qui s'est déployé, puis moi, tu le voyais, Étienne, qui se surprenait à faire, voyons, c'est à l'intérieur de moi, ça, tu sais.
Ah non, c'est incroyable. Puis, mais c'est ça l'affaire aussi, une quote que j'adore à propos du masque du gars qui fait des masques, là, Erhard Stiefel, il dit « Le masque ne cache pas, il révèle. » Je trouve ça tellement vrai. C'est comme, puis qu'un masque comme accessoire de théâtre, c'est quelque chose qui communique plus loin que le visage, plus juste que le visage, qu'on peut être ému, qu'on peut être touché, que c'est des objets d'art, c'est pas des simples accessoires de théâtre, c'est des objets avec des esprits, puis quand on les met, il y a quelque chose qui se passe.
Si ça résonne comme Montréal, ça a l'air de CKUT. La campagne de financement annuelle est de retour et cette année, nous célébrons la ville qui nous a donné notre identité. Branchez-vous de vendredi le 15 mars au dimanche le 24 mars pour des programmes spéciaux en direct créés par nos programmateurs préférés et un live stream exclusif en ligne pour la première fois dans l'histoire de la station. Les amis et la famille de CKIT jouent les tunes pour notre fête d'ouverture à Bar La Marche à Côté le 14 mars et lors de notre soirée de fermeture le 23 mars à Nouvel Établissement. Notre objectif de 50 000 $ est essentiel pour préserver la place de CKUT sur la carte. Alimenter notre organisation sans but lucratif est de plus dispendieuse que jamais. Est-ce que vous allez répondre à l'appel de votre communauté avant que ça soit trop tard? Donnez aujourd'hui en visitant ckut.ca/donate ou en appelant 514-907-9424. CKUT 90.3 FM, la bande sonore de Montréal depuis 1987.
La campagne de financement annuel de CKUT est de retour et prend place du 15 mars au 24 mars. Nous avons du nouveau merch grâce à nos donneurs, comme des t-shirts, des sacs totes, des tasses, des aimants de frigo et des affiches. Grâce à la générosité de nos commanditeurs, vous avez la chance de gagner des biens de tous vos commerces préférés
des festivals et plus avec chaque don de plus de 35 $. Les commanditaires de cette année comprennent Pop Montréal, Cinéma Public, Constellation Records, Mutec, Festival du Nouveau Cinéma, Encore Books and Vinyl, RIDM, CNL Cycle, Adam Hart, Just Seeds, Lola Rosa, Putting Edge, John and Quarterly, Death of Vinyl, La Rama, Le Seltzer, Dispenseur Microbrasserie, Lugelion, Pizza Bouquet et Librairie Paragraph. CKUT aimerait remercier nos commanditeurs pour leur soutien en propulsant une autre année de radio communautaire. Pour en apprendre plus à propos de nos prix et pour donner, visitez ckut.ca/donate.
D'entendre un extrait de Rothko Mitchell. Il sera en concert, imaginez-vous donc, au Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Incroyable, n'est-ce pas? Il sera au Québec, en scène, le 18 mai prochain. Et c'est une légende vivante qui joue tous les saxophones. Elle a fait partie du Art Ensemble of Chicago. Donc, le festival cette année s'échelonne entre le 13 et le 19 mai. Et Rothko Mitchell sera en solo le 18 mai. Et on a un programme assez chargé aujourd'hui. C'est toujours la levée de fonds à CKUT. Si vous voulez donner, allez-y fort au 514-907-9424 ou bien allez sur le site web de CKUT, ckut.ca/donate. Et puis, ouais, comme on disait tantôt, hein, l'argent qu'on cherche, qu'on récolte, c'est pour payer, entre autres, le loyer, louer la location de l'antenne et de la tour, le transmetteur en anglais, transmetteur, ouais, désolé, c'est pas gratuit, donc voilà, ça permet d'entretenir l'équipement également. Donc, on va écouter une interview qu'a dirigé Stéphane Christophe avec un réalisateur de films, Jean-Philippe Marquis, pour le film documentaire Sylvie Cola. Et c'est un film à propos de l'industrie forestière. Donc, écoutons ça.
Bonjour, vous êtes sur les... Vous êtes sur les ondes de CKUT 90.3 FM à Montréal. Merci pour rejoindre nous sur l'émission Café. Et aujourd'hui, j'ai contribué une interview pour Café avec une cinéaste s'appelait Jean-Philippe Marquis qui fait un documentaire créatif s'appelait Sylvie Cola qui visitait les sujets de les gens qui travaillent dans les forêts à Colombie-Britannique. Ça, c'est une méditation dans un sens cinématique sur les points importants aujourd'hui sur les pratiques de l'industrie forestière et aussi
les perspectives de beaucoup de communautés qui impactent par cette industrie, comme les communautés autochtones. Cette film lancée dans les prochains jours à Montréal en collaboration avec Cinema Politica, qui commence en fait dans les prochains jours à Cinémathèque québécoise, qui demain, le 23 mars à 13h, et aussi pour les prochains jours en fait à Cinémathèque québécoise. Je suis visité le site web pour ça, et aussi l'information c'est sur le site cinemapolitica.org sur cette film Svicola. C'est un plaisir pour contribuer cette entrevue aujourd'hui pour Café sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Je suis Stéphane Christophe. J'ai fait une émission tous les mercredis à 11h, ça s'appelait Free City Radio. Et en fait, ça c'est mon conversation avec cinéaste Jean-Philippe Marquis pour vous sur les ondes de CKUT. J'ai laissé vous avec notre échange maintenant. Aujourd'hui, pour lancer un film qui visitait le sujet de militantisme, c'est encore important. Je pense beaucoup de gens plus engagés avec les questions comme ça sur les médias sociaux et tout ça. Ben, c'est toujours comme dans un contexte vraiment bref. Votre film, c'est plus long, qui crée aussi un espace pour réflexion. Je pense aujourd'hui c'est essentiel pour beaucoup de raisons, parce que c'est impossible aussi pour développer les connaissances et compréhension nécessaires pour monter un mouvement social qui combattait les policiers avec 30 secondes. C'est possible pour juste commencer avec une introduction de vous et votre practice dans ce contexte film engagé.
Ça, moi, un peu l'inspiration du film, moi j'ai travaillé dans la foresterie plusieurs années, donc toutes mes années étudiantes, j'allais dans l'Ouest pour planter des arbres, donc j'ai travaillé dans le nord du Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique. Et j'avais accès en fait à des paysages assez dévastés. Donc dès le début, je savais que je voulais documenter ce que je voyais, parce qu'on est tellement reculé qu'il y a vraiment peu de gens qui voient en fait ce que les planteurs voient. Puis là, j'ai réalisé assez vite qu'en dehors de ceux qui plantent les arbres et qui coupent les arbres, le public n'a aucun accès à ces paysages-là. Donc je voulais vraiment... L'idée de documenter m'est venue assez tôt. Mais c'est vraiment lorsque j'étais sur la côte ouest de la Colombie-Britannique à replanter des forêts anciennes qui avaient été coupées. Là, on voyait vraiment les grosses souches, les arbres géants qui avaient été coupés. Là, c'est vraiment là que j'ai eu l'idée de faire le documentaire. Puis j'ai... En fait, la question qui m'a lancé dans le projet, c'est que je voulais comprendre un peu quel était le sentiment de couper un arbre millénaire. Donc moi, je voyais ces grosses souches-là, puis je voulais rencontrer les gens qui coupaient ces souches-là. Donc ça s'est un peu développé. Donc l'idée du film, c'est vraiment le conflit interne des travailleurs forestiers. Et la foresterie, c'est extrêmement... en Colombie-Britannique, bien, partout au Canada, mais en Colombie-Britannique particulièrement, c'est très divisif, c'est très politisé, c'est très... Et souvent, les films qui ont été faits... c'était des films, disons, anti-logging, avec des figures d'affiches comme David Suzuki ou des activistes prominents. Puis j'avais l'impression que souvent, ces films-là un peu pointaient les travailleurs comme un peu les bad guys, là, les méchants de l'histoire. Mais moi, je voulais faire un film, justement, qui allait porter à la conversation, puis qu'elle était un peu rassembleur. Je voulais un film qui soit autant apprécié par les activistes, ceux qui vont se mettre en première ligne, et aussi les travailleurs forestiers. Je voulais faire un film qui allait comme pouvoir amener la discussion. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire un film qui était juste sur les travailleurs forestiers, puis qui mettait pas juste les travailleurs forestiers, puis sans montrer, disons, des activistes et des... des gens qui travaillent pour des organisations, pour vraiment mettre en lumière les travailleurs.
Cet point-là adressait directement une critique qui aussi beaucoup des militants ont monté. C'est parce que c'est les questions de politique et les questions de les dynamiques systémiques qui créent les conditions pour les, quote-unquote,
industrie forestière bouge. C'est pas juste passé comme ça, c'est pas les choix individuels. Ben, merci pour dire ça. C'est possible pour parler un peu de la vision de monter un film qui parlait de l'expérience personnelle des travailleurs dans ce contexte, juste un peu plus sur l'importance de ça pour vous, pour humaniser les décisions, l'expérience de les gens.
Ça, c'est un montage, tu parles comme du montage, le montage du film. Ça, c'est un montage qui est non linéaire. Donc, c'est un film. Moi, j'ai approché le film aussi d'un côté très artistique. Donc, c'est pas un film où on a un personnage qui a une quête. Donc, c'était ça, c'était quand même un défi de monter un film non linéaire. Donc, l'idée de base, c'est qu'on suit une forêt. On commence avec une forêt ancienne qui se fait couper et ensuite reboiser et replanter. Donc, c'est un peu, on suit un peu cette ligne-là. Et à travers ça, on rencontre des histoires humaines.
Oui, juste un peu plus de vous avez parlé de les montages et toute l'approche de la timeline qui part. Parce que j'ai pensé sur comme timeline d'une forêt qui n'existait pas dans les mêmes dimensions, dans un sens, parce que la timeline de nature, c'est pas les mêmes de la timeline de l'industrie et le capitalisme, c'est une autre dimension. Et je pense que c'est difficile toujours pour les gens dans les villes pour recogniser la timeline qui existe dans la nature, c'est pas les mêmes.
Mm-hmm. Oui, puis la vision du temps aussi, c'est intéressant comme... dans mon personnage, j'ai des personnages autochtones. On les voit ramasser l'écorce. Et leur vision du temps est vraiment différente de la vision plus, capitaliste, coloniale, industrielle. Donc, on a les gens qui sont comme... J'ai un monsieur qui travaille dans un moulin assis. Et lui, il me parle de « back in the days ». Donc, lui, sa vision de « comme avant », il fait référence aux années 50-60, « The Golden Age of Forestry » puis « Back in the Days ». Mais quand on parle au personnage Première Nation qui ramasse l'écorce, quand lui, sa version de « Back in the Days », c'est 700, 1000, 2000 ans avant. Donc, c'est vraiment fascinant de... Ben, en fait, on a dévasté la forêt en à peu près 100 ans, 120 ans. Et juste la vision du temps, c'est deux états d'esprit, en fait, là. De dire que nous... donc ça, je trouve ça... C'est juxtaposité, ces deux versions du temps, ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans le film.
Et parlez un peu sur votre choix, parce que vous êtes mentionné personnellement comme travailleur. Dans votre expérience, vous êtes engagé avec ce territoire. Parlez un peu plus sur votre décision pour engager avec les territoires qui le site de votre travail dans une certaine période. Et ce n'est pas une décision facile pour revisiter le territoire dans un autre contexte comme artiste, cinéaste. Et ce n'est pas aussi le choix obvious, parce que beaucoup de gens voient des mal expériences ou les expériences difficiles comme dans les contextes de travail comme ça. Vous êtes revisité le territoire avec une nouvelle approche et ça, c'est vraiment intéressant.
Quand on commence à travailler en foresterie, au début, on est vraiment touché par la dévastation, les clear cuts. Ça nous affecte, c'est traumatisant. Mais avec le temps, on se crée un peu une carapace. C'est triste à dire, mais on est tellement habitué de voir la dévastation. Puis on rentre dans le beat de faire de l'argent. Parce qu'on est là pour travailler, on est là pour faire de l'argent. Mais des fois, lorsque moi, je m'arrêtais pour travailler, je prenais 10 minutes de pause. Et là, c'est là que ça me rentrait dedans. C'est lorsque tu commences à penser sur l'impact de l'homme sur l'environnement. Et puis c'est assez troublant. Mais lorsque je suis retourné, moi j'aime dire que j'ai changé la pelle contre la caméra. Donc moi j'avais cet avantage-là, je savais où étaient les territoires, j'avais un peu l'accès aussi parce que j'avais des amis qui étaient dans l'industrie. Donc j'avais encore cette carapace-là lorsque c'était le temps de tourner. Donc j'étais pas, disons, j'avais pas vraiment d'émotion. Mais ça, ça m'aidait dans mon travail parce que je pouvais vraiment être focus sur la composition, les plans, puis vraiment approcher la destruction avec les yeux d'un artiste. Puis je savais quoi chercher, je savais quel paysage je voulais, puis je savais les angles approcher.
Donc, on est de retour sur Café. On est un petit peu serré dans le temps ce soir. On a trop de bon matériel à vous proposer. C'est ça, on va passer à l'entrevue que Charlotte, notre nouvelle collaboratrice, a fait avec Geneviève Labelle et Josiane Dulon-Savignac sur la pièce Explosion, qui est présentée au Théâtre Denis Pelletier. Et elles vont discuter des enjeux et des choix proposés dans cette création de la maison de production Pleurer dans douche. Féminisme et lutte contre le patriarcat seront de la partie.
Pour l'émission Café sur les ondes de sécurité, on s'entretient avec Geneviève Labelle et Josiane Dulon-Savignac à propos de la pièce Explosion, qui est présentée au Théâtre Denis Pelletier du 19 mars au 6 avril. Je vais commencer en te demandant, Josiane, comment c'est pour toi de créer à trois?
Moi, je fonctionne vraiment mieux en équipe. Puis créer à trois, ça me fait rebondir plus rapidement, ça me fait être un peu plus funky, ça me fait comme me libérer puis me décomplexer de toute la charge de créer seule. Puis aussi, je pense que, tu sais, avec mes amis, Geneviève et Mélodie, je pense que, tu sais, on rit tellement juste dans notre quotidien que là, ben, on se permet de créer un spectacle qui nous fait du bien, tu sais. C'est un support, puis je pense que ça nous pousse plus loin. Tu sais, moi, je réfléchis dans le dialogue, donc, ben, ça prend plus qu'un mur pour réfléchir au temps.
Parce que la maison de production Pleurer dans douche fonctionne souvent, de ce que j'ai cru comprendre, en équipe de deux au moins, voire trois, voire quatre, pour ce qui est de la création des textes, la mise en scène, etc.
En fait, c'est ça a donné de même, mais je pense que comme fondamentalement, c'est devenu comme naturel pour nous de travailler comme dans une recherche d'horizontalité dans nos créations. Je pense que c'est vraiment féministe comme technique de travail. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai besoin de validation. Là, je suis en train de m'analyser présentement. Je ne sais pas si c'est parce que, mettons, les hommes ont tellement confiance en eux qu'ils peuvent faire des trucs seuls, ou c'est juste parce qu'on a la sensibilité de vouloir travailler en équipe puis de se réunir. Fait que, ben, je pense que c'est plus la deuxième option, mais je trouve ça vraiment nourrissant de travailler en équipe. Puis, tu sais, il y a comme des mauvaises langues qui disent que de travailler en équipe, ça crée des spectacles avec trop de compromis, puis que ça dilue le propos, ou c'est comme il y a trop de vision. Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'il faut juste prendre vraiment le temps de parler puis de choisir ensemble les bonnes solutions. Puis dans ce cas-là, ben, c'est encore plus, selon moi, grandiose et nourrissant dans notre parcours respectif à tout le monde.
Oui, puis j'ajouterais aussi que, tu sais, par rapport au compromis, je suis tellement d'accord. Mais je pense qu'on on se l'est dit souvent aussi, des fois, quand on essayait de trouver comment solutionner une scène ou un passage. Puis là, après, on est en groupe, puis même les membres de l'équipe qui s'ajoutent plus tard dans le processus ont une place pour la prise de décision, dans la mesure de leur intérêt aussi. Puis c'est sûr que je pense que ça amène plus de nuances, en fait, dans nos choix. Je pense qu'on va toujours à l'inverse du trop de compromis. On essaie de trouver le choix le plus clair, le plus tranchant, qui plaît à la majorité.
Le concept de la pièce, que je comprends, c'est l'idée d'un service public qui lutte contre le patriarcat. Puis elle se situe dans Hochelaga, dans une usine-ish, un univers vraiment éclaté, funky. J'avais le goût de vous demander un petit peu d'où partent ces questions-là, des idées-là, d'avoir un service public contre le patriarcat dans Hochelaga. Josiane?
Ben, tu sais, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire que c'est comme, pour nous, c'était la partie de la fiction. Mais honnêtement, on invite les gens dans Fred Barry, dans le théâtre Denise Pelletier. Puis cette shop-là existe dans le théâtre Denise Pelletier parce que, tu sais, il y a un personnage qui vient nous parler de l'établissement dans lequel on se situe, pour pas donner de punch. Mais donc ça, c'est comme la partie de la fiction, mais qu'on veut vraiment avoir pignon sur rue, exactement où on se retrouve pour le spectacle. Donc ça, c'était comme une espèce de mélange important pour nous, entre, tu sais, autofiction et... Aussi, on fait un peu la même chose avec plein d'autres degrés de réalité dans le spectacle, comme les personnages. Tout le monde se joue un peu soi-même, mais on est là au bord du rêve des fois. Mais on se joue soi-même dans une espèce de monde un peu décalé, qui ressemble vraiment au nôtre aussi. C'est comme ça, je pense, que notre dynamique de groupe fonctionne. Puis je pense que dans nos têtes, c'est aussi... coloré, puis aussi niaiseux à la fois. Ça nous ressemble. On vous invite dans notre intérieur, en fait.
Je te pose la question à toi, Geneviève, mais Josiane, j'aimerais aussi entendre ton opinion là-dessus. Est-ce que vous avez comme visé un public précis en écrivant la pièce? Est-ce que vous avez comme eu envie de parler à quelqu'un précisément, une tranche d'âge, un type de personne, de personnalité dans notre société?
Ben, honnêtement, pas tant, parce que, ben, personnellement, quand je crée, je crée des choses, je crée des affaires que j'ai envie de dire on the spot, puis je pense que le meilleur public, c'est tu sais, je fais des shows que moi, j'aimerais voir. Fait que dans le fond, tu sais, potentiellement que le meilleur public pour voir le show, c'est des personnes qui ont mon profil, mais pour avoir vu plein de gens de tous âges dans la salle jusqu'à maintenant, je pense qu'ils sont... On amène ça avec tellement d'humour qu'ils sortent de là quand même avec le cœur ouvert. Je pense pas que les gens se sentent attaqués par le mot patriarcat jamais dans la pièce. Puis on met ça vraiment clair que pour nous, le patriarcat, c'est pas les hommes nécessairement, mais tu sais, c'est un système, puis tout ça, mais que, tu sais, si le chapeau te fait, ben mets-le. Mais je pense qu'on le fait avec tellement d'humour que ça fait passer bien des affaires. Même s'il y a des choses violentes, par exemple, un des premiers appels qu'on reçoit, parce qu'on reçoit des appels dans le shop, là, le monde nous appelle, puis ils nous disent « OK, ben là, pouvez-vous faire exploser ça? Ça me ferait du bien, nanana. » Mais un des premiers appels qu'on a, c'est un dude pro-féministe qui comprend pas que c'est notre ligne d'urgence, puis qu'il faudrait qu'il nous écrive un courriel. Fait que là, on décide d'exploser le téléphone, c'est ça. Tu sais, ça pourrait être reçu mal, mais je pense qu'on le fait avec tellement de niaiseux que les gens font comme « Ouais, c'est vrai des fois qu'il y en a qui manquent d'écoute.
» Mais je voulais ajouter quelque chose aussi par rapport à, tu sais, le fait que la shop existe réellement pour nous dans notre cœur, là, c'est que... explosion, c'est comme si c'était... En tout cas, la façon que je le vois, c'est une permission qu'on se donne pour aussi réfléchir à la place des artistes dans la ville, dans la société. Puis là, ben, c'est des artistes ouvriers-ouvrières. On a comme créé une espèce de mash-up de ces deux idées-là qui travaillent bien fort à être autocritiques, à aussi critiquer des structures, puis à ben, détruire le patriarcat. Puis tout le monde sait bien que c'est très symbolique, mais c'est ça le travail des artistes dans la société, c'est de faire réfléchir, de toucher, puis d'élever des questions sociales à un autre niveau pour pouvoir comme les ingérer des fois. Et je pense que réellement, c'est ce que les artistes ouvriers-ouvrières font dans le spectacle. Donc finalement, c'est peut-être une vraie shop dans notre fiction. T'sais.
Tous les personnages se jouent elle-même, ça rajoute un autre niveau, on dirait, de réflexion. J'ai l'impression que, en même temps, je veux vous féliciter pour cette vulgarisation de ce qu'est la cause féministe au travers de la pièce, parce que j'ai l'impression que c'est pas une pièce qui s'adresse juste à des féministes aguerries du milieu queer qui connaissent vraiment bien tous les enjeux, j'ai l'impression que ça s'adresse aussi à des gens qui savent peut-être pas trop c'est quoi. Puis le patriarcat, ils en ont entendu parler, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que ces personnes-là pourraient comme voir la pièce ou peut-être ont vu la pièce, puis vont catcher des choses, puis vont se sentir interpellées, puis peut-être comme interroger à en savoir plus.
Ben, c'est sûr qu'en écrivant, on se pose quand même tout le temps la question qu'on ne veut pas être refermé sur nous-mêmes, on veut que les gens comprennent, on veut s'adresser à eux de façon intelligible et intelligente, puis on espère la même chose de leur part, c'est-à-dire qu'ils nous suivent un petit peu dans notre chemin sinueux. Après, j'ai comme envie de raconter une petite anecdote. On a eu comme plein de public tests pendant, parce que c'est un spectacle qui est participatif. Il y a eu plein de public tests pendant le processus, dont un avec des groupes du cégep. Puis il y avait une fille qui parlait de tous ces buzzwords-là qu'on utilise. Patriarcat, en tout cas, bon, bref, je vais pas vous faire la liste, là, mais je vais aller droit au but, c'est que pour elle, c'était un peu peut-être extérieur à sa réalité, puis elle trouvait que c'était un peu à la mode. Mais nous, parce qu'on en était en discussion à ce moment-là, on a dit, ben, ça ressemble à ça notre quotidien, puis c'est comme ça qu'on adresse le monde autour de nous. Puis, on est des personnes un peu qui font beaucoup de jokes de pète, mais aussi, on va sortir un gros concept 2 secondes après. Elle le fait son bout de chemin pendant le spectacle, puis c'est ça qu'elle nous racontait vraiment simplement. C'était super que finalement, elle a compris à retardement, quelques scènes plus tard, que, c'est peut-être que c'est une critique de tout ça. Puis, effectivement, c'est un spectacle très autocritique. Je pense que c'est intelligible pour même des gens qui ne sont pas dans le milieu militant queer.
Quand je lis, mettons, quand j'écris une demande de sub ou quand je lis une demande de sub, je suis vraiment le meilleur public pour le lire parce que je comprends rien. Fait que je pense, tu sais, mettons, moi, c'est une de mes qualités, je comprends rien. Fait que on va travailler jusqu'à temps que je comprenne qu'est-ce qu'on est en train de dire. Mais oui, c'est vraiment important de. Tu sais, je pense que ça fait partie d'être inclusif, de vulgariser les choses puis de trouver la meilleure façon pour que tout le monde comprenne, pour que le monde qui connaisse bien ça soit satisfait, mais que le monde aussi qui connaisse pas ça puisse comprendre, tu sais, parce que il y en a qui ont jamais entendu dynamique de pouvoir dans leur vie là. Puis tu sais, nous on dit ça tous les jours là. Fait que c'est ça.
En allant s'acheter un hot dog au coin de la rue, tu sais.
J'avais vraiment envie d'aborder l'effet toaster. À propos, parce que ça a été quelque chose au travers du spectacle qui est arrivé comme 3 fois. Tout s'arrête pendant la pièce. Geneviève, tu tombes par terre. On a Mélodie qui te parle avec un espèce de... un très neutre, très calme, puis qui te dit souvent « c'est normal ». J'avais le goût, moi, Geneviève, j'avais le goût qu'on s'en parle de l'effet toaster.
J'ai travaillé sur un projet avec le collectif Toll, qui s'appelait Bébé Fontaine, puis c'était sur l'œuvre de Brigitte Fontaine. J'ai découvert le monde de Brigitte Fontaine et en créant Explosion, on écoutait du Brigitte Fontaine, puis on est tombé sur la toune « C'est normal ». Puis de là vient l'inspiration de ces scènes-là où il y a comme un... Il joue de la musique un peu relax, puis là... il y a comme un interlocuteur qui parle un peu comme Mélodie dans le spectacle, tu sais, qui explique un peu la vie trash à Brigitte Fontaine, puis qui dit tout le temps c'est normal, puis là on était comme ah, c'est bon parce que c'est comme c'était pour nous une façon de faire passer des affaires vraiment intenses, tu sais, de l'écologie puis de la planète, mais on dirait que ça rendait ça un peu moins quétaine de passer par cet humour-là.
Donc, on est de retour pour finir cette émission bien chargée.
Ouais. désolée, Charlotte et Stéphane, de vous avoir coupé puisqu'on avait vraiment besoin de 1 minute 50 pour combler le tout, pour pas... enchaîner en retard avec l'autre émission. Mais c'est la levée de fonds de CKUT et profitez-en, il y a des prix à gagner également. Tenez-vous au courant via le site internet ckut.ca.
Est-ce qu'on voulait remercier aussi nos collaborateurs, ouais, nombreux aujourd'hui?
Merci donc, à Charlotte, moi, à Stéphane,
Lynn, Esther,
à Lynn.
Et donc Charlotte et Stéphane, qui n'est pas un collaborateur officiel, mais qui était invité.
Oui, c'est ça, c'est aujourd'hui pour, un collaborateur de CKUT de longue date et qui collabore pour la première fois à Café.
Donc, c'était super le fun. Et
ouais,
donc, super. N'hésitez pas à faire un don pour la collecte de fonds qui se termine dimanche, si je ne me trompe pas.
Ouais, je pense que c'est ça.
Donc, encore une fois, vous pouvez donner dans le site ckut.ca/donate et par téléphone. Veux-tu répéter le numéro de téléphone?
514-907-9424.
Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Listening to CKUT. The following is a previously broadcast program. Stay tuned.
Sleepy King starts now.